découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Nous continuons donc l'histoire un peu de la démocratie, ou en tout cas de la position de l'Église par rapport à cette forme de gouvernement qu'est la démocratie, ou cette forme de désignation des gouvernants, comme nous l'avons dit la dernière fois. Et dans cette histoire, il y a cette fameuse affaire qui est dite du ralliement. Dans les années qui suivirent ce que nous avons dit précédemment, le pontificat du pape Léon XIII, donc après le bienheureux Pie IX, fut marqué par l'épisode dit du ralliement. Peu après l'épisode du toast d'Alger, du 18 novembre 1890, au cours duquel l'archevêque d'Alger, qui n'était autre que le cardinal Charles Lavigerie, né à Bayonne, soit dit en passant, profitant de la visite de l'escadre de Méditerranée, leva son verre en l'honneur de la République. Le pape Léon XIII, dans une encyclique du 16 février 1892, intitulée « Au milieu des sollicitudes », exigea en effet des catholiques français qu'ils renoncent à combattre les institutions républicaines. C'était le moment de la Troisième République. C'est assez savoureux, ce toast d'Alger, qui fut sans doute un peu excessif de la part du cardinal Lavigerie, qui n'avait pas été mandaté pour autant par Léon XIII pour le faire, et qui s'adresse pour saluer la République et suivi du chant de la Marseillaise, s'il vous plaît. Donc dans le contexte de l'époque, c'est assez impressionnant, devant une escadre de Méditerranée dont les officiers sont certainement pour la plupart monarchistes. Entendons-nous bien quand même, le pape Léon XIII n'entendait nullement demander aux catholiques, hostiles à la République et majoritairement monarchistes, qu'ils renoncent à leurs idéaux ou à leurs convictions. Il ne demandait pas aux catholiques d'être républicains. L'encyclique rappelle en effet que les catholiques ont pleine liberté de préférer une forme de gouvernement à une autre, donc ils ne se prononcent pas pour dire bah, « c'est la forme qui convient aujourd'hui pour des catholiques ». Mais dans le contexte de la Troisième République, d'inspiration maçonnique, il les exhortait surtout à ne pas combattre les institutions telles qu'elles étaient, et donc à prendre acte des institutions de la République, pour s'unir contre un seul homme, comme un seul homme, pardon, pour combattre l'ensemble des lois laïques et anticléricales dont l'adoption, écrivait-il, aboutirait à arracher de l'esprit et du cœur des Français la religion qui les a fait si grands. Vous voyez, l'idée de Léon XIII n'était pas de demander aux catholiques d'être républicains. On est bien entendu, il le dit bien, dans cette encyclique au milieu des sollicitudes. Mais c'était de dire, plutôt que de combattre contre les institutions de la République, ben, soyez unis, les catholiques, pour combattre les lois iniques que la Troisième République porte. Quoi qu'il en soit, cette tentative de ralliement des catholiques à la République fut un échec. Elle n'a nullement favorisé l'union des catholiques de France, ni freiné la sécularisation des institutions et la déchristianisation de la société française que nous observons aujourd'hui à 100 ans de distance. Les catholiques de l'époque se sont au contraire opposés quant à l'interprétation et aux suites à donner à l'encyclique de Léon XIII. Certains n'en ont tenu aucun compte. D'autres se sont ralliés effectivement à la République. Je précise que le mot « ralliement » n'était pas sous la plume de Léon XIII, même s'il a pu être prononcé par le cardinal Lavigerie dans son toast d'Alger. Et quand ils se sont ralliés à la République, ils se sont également souvent laissés contaminer par l'esprit laïciste, naturaliste, voire antichrétien, qui la caractérise souvent et qui crée souvent chez les catholiques cette sorte de schizophrénie qui aboutira à cette fameuse distinction entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. D'un côté, de manière privée, nous sommes fidèles à notre foi catholique, et dans l'exercice de nos responsabilités sociopolitiques, nous pouvons aller à l'encontre, sous prétexte qu'une majorité, puisque c'est la démocratie, a prévu d'aller dans ce sens. Il est incontestable que la civilisation chrétienne, qui repose sur un certain nombre de principes aussi fondamentaux que comme nous l'avons déjà dit, la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'égalité fondamentale des hommes entre eux, le respect de la liberté et de la responsabilité de chacun, etc., ont grandement contribué à l'émergence de la démocratie telle que nous la connaissons. C'est sûr que ces principes universels, comme le dit et le rappelle le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, sont inscrits dans la nature de l'homme et ne sont pas susceptibles d'évoluer ou de changer au gré des changements culturels. Dans ces conditions, l'essor au XXe siècle de ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie chrétienne, expression qui sommairement désigne l'ensemble des partis politiques, qui reconnaissent le bien fondé de la démocratie parlementaire et se réclament ou s'inspirent des valeurs chrétiennes telles que la fraternité, les droits de l'homme ou la justice sociale, cet essor de la démocratie chrétienne n'a rien de surprenant. Pour autant, l'Église, qui ne saurait être liée à aucun régime politique particulier, a maintes fois souligné ou rappelé que l'évangélisation ne consiste nullement à favoriser l'avènement de la démocratie universelle. Ça n'est pas le but de l'évangélisation. Le but de l'évangélisation, c'est d'annoncer le royaume des cieux, pas une forme ou une autre de gouvernement. C'est ainsi que dans une encyclique intitulée « Notre charge apostolique », datée du 25 août 1910, 25 août, c'est la fête de Saint-Louis, roi de France, le pape Saint-Pie X écrivait à propos des démocrates chrétiens du mouvement « Le Sillon » de Marc Sangnier, je cite cette longue citation qui en dit long sur la position de l'Église par rapport à un régime, quel qu'il soit, et en particulier cette démocratie universelle. Son catholicisme ne s'accommode que de la forme du gouvernement démocratique qu'il estime être la plus favorable à l'Église et se confondre, pour ainsi dire, avec elle. Il inféode donc sa religion à un parti politique. Nous n'avons pas à démontrer que l'avènement de la démocratie universelle n'importe pas à l'action de l'Église dans le monde. Nous avons déjà rappelé que l'Église a toujours laissé aux nations le souci de se donner le gouvernement qu'elles estiment le plus avantageux pour leurs intérêts. Ce que nous voulons affirmer encore une fois, après notre prédécesseur, c'est qu'il y a erreur et danger à inféoder par principe le catholicisme à une forme de gouvernement. Erreur et danger qui sont d'autant plus grands lorsqu'on synthétise la religion avec un genre de démocratie dont les doctrines sont erronées. Voyez, donc c'est bien clair. Il ne s'agit pas d'inféoder la religion à un parti politique. En 1926, nous trouvons le journal et le mouvement royaliste de l'Action française de Charles Maurras. Et nous savons que Pie XI condamnera, en particulier lors d'une allocution consistoriale du 20 décembre 1926, l'Action française, en déclarant, je cite, « En aucun cas, il n'est permis aux catholiques d'adhérer aux entreprises et en quelque sorte à l'école de ceux qui placent les intérêts des partis au-dessus de la religion et veulent mettre la seconde au service des premiers. Il n'est pas permis non plus de s'exposer ou d'exposer les autres, surtout les jeunes gens, à des influences ou des doctrines constituant un péril tant pour l'intégrité de la foi et des mœurs que pour la formation catholique de la jeunesse. » Fin de citation. À cette époque, l'on sait que la condamnation de l'Action française reposait sur deux griefs principaux. Le fameux « politique d'abord » cher à Maurras, qui n'était pas chrétien à ce moment-là, qui était agnostique, qui semble subordonner le spirituel au pouvoir temporel, ce que l'Église ne peut jamais admettre en aucune façon, et l'inspiration positiviste de certains écrits de Charles Maurras. En revanche, cette condamnation, qui sera d'ailleurs levée, comme on le sait, par Pie XII en juillet 1939, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ne fut nullement motivée par un désaccord à propos de la forme du gouvernement ou de la monarchie, comme le démontre entre autres une lettre du cardinal Andrieux du 5 septembre 1926, dans laquelle Pie XI écrit sans ambiguïté, là-dessus, l'Église laisse à chacun la juste liberté. Donc en condamnant l'Action française, Pie XI ne condamnait pas la monarchie, hein, qui reste une forme de gouvernement admissible et possible, sans qu'elle ait à se prononcer, pour l'un ou l'autre, comme nous l'avons déjà dit, mais condamnait des formes naturalistes et positivistes de la doctrine de Charles Maurras, et en tout cas, cette manière de faire passer le temporel avant le spirituel. On sait d'ailleurs que Charles Maurras, par la suite, avant la fin de sa vie, où il terminera quand même dans un désert et dans la surdité, même physique, eh bien, il finira par se convertir au christianisme. Enfin, en 1944, c'est-à-dire dans un contexte fortement marqué par le rejet absolu des horreurs de la guerre et de la barbarie nazie, le radiomessage du pape Pie XII du 25 décembre donc 1944 exprime une approche différente, voire un certain infléchissement du discours de l'Église sur la démocratie. Je cite « Si la possibilité de contrôler et de corriger l'activité des pouvoirs publics n'avait pas fait défaut, le monde n'aurait pas été entraîné dans le tourbillon désastreux de la guerre. » Fin de citation. C'est en ces termes que le pape Pie XII prend acte de l'engouement et des espoirs que l'idéal démocratique fait naître de par le monde, en réaction évidemment au totalitarisme nazi, comme au totalitarisme communiste. Dans cet important radiomessage, Pie XII ne se contente pas de reconnaître plus explicitement que l'Église ne l'avait fait jusqu'alors, la valeur de la démocratie pour l'homme, qui, je cite, « loin d'être l'objet et comme un élément passif de la vie sociale, en est au contraire et doit en être et demeurer le sujet, le fondement et la fin, c'est-à-dire l'homme », il précise qu'elles sont à ses yeux les conditions d'une vraie et saine démocratie, conditions que Saint Jean XXIII et surtout Saint Jean-Paul II préciseront et développeront ultérieurement, comme nous aurons l'occasion de le voir les prochaines fois.